BFM Business et Tech&Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, bienvenue, bon week-end bien évidemment, vous le savez de quoi je me mêle, on est là en chaque fin de semaine, en exclu dès le vendredi à midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech en podcast audio et puis le soir même sur BFM Business et en rediffusion aussi le samedi et le dimanche à la radio, à la télé. Avec au sommaire pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, ce sera notre rendez-vous Labo Fnac, les beaux jours sont là et vous vous posez peut-être la question, comment choisir son enceinte nomade? Quelles sont les nouveautés, tiens? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le domaine du Bluetooth? On en parlera avec Lionel Costa, qui est, vous le savez, le responsable du Labo Fnac. Il viendra nous présenter les meilleures enceintes du moment dans diverses gammes, avec évidemment aussi les meilleurs rapports qualité-prix. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur les réseaux. Encore une fois, un grand merci d'être là, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech&Co.
Et pour commencer, bien évidemment, c'est le rituel. On commente ensemble toute l'actu tech de la semaine avec, eh bien, pour ce week-end à mes côtés, Olivier Frigara. Salut Olivier.
Salut François.
Le père fondateur de On refait le Mac. Mais pas qu'on refait le Mac, on refait la F1.
Ouais.
Il y a eu On refait la tech, je ne sais pas si ça existe.
Oui, toujours. Ça va, ça vient.
Ça va, ça vient, ben voilà, comme ça. Merci d'être là.
Avec plaisir.
Olivier, on va parler justement des projets d'Apple dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis Nicolas Guyot, c'est le retour de Nicolas Guyot.
Salut François, ouais, Charles de Macab.
Nicolas Guyot qui est le Tim Cook de la presse aujourd'hui. Impossible de mettre la main dessus.
D'accord.
C'est incroyable.
Non, parce qu'on ça s'arrête jamais, c'est ça qui est bien.
C'est ça.
Ça jamais été aussi avec les grands de ce monde, c'est ça.
Bah oui, il est tout le temps par Mons et par Vaux, ouais. Comme Tim Cook va voir un petit peu ses usines en Chine. Pareil pour Nicolas Guyot, ouais. Rédacteur en chef de Clubic.
Tout à fait.
Tout va bien, Nico ?
Tout va bien.
Voilà. Ravi de te retrouver.
Enchanté, messieurs.
L'actu. Eh bien, écoutez, on va commencer par ce projet qui se confirme, qui s'affine. De plus en plus, c'est ce qui va se passer à la rentrée. Et Olivier, on est presque bon. On devrait
malheureusement,
avoir...
on est toujours un peu frustré d'avoir déjà le portrait robot de l'iPhone avant même qu'il soit sorti. Quoi.
Voilà. Et parmi tous les nouveaux iPhones qui sont annoncés pour cette rentrée, on peut dire que ça se confirme vraiment. Il y aurait un iPhone Fold, donc un iPhone pliant.
Ouais.
On est sûr à combien là ?
À 99,99.
Waouh !
Enfin,
Vous
savez que moi je fais mon pari avec Léa, ma productrice. Je crois que je vais gagner ma pizza. Hein. Là, ça sent vraiment la pizza. Hein.
Non, mais il y a quelques encore zones d'ombre. La question n'est pas s'ils vont sortir un iPhone Fold, c'est quand. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce qu'ils vont le sortir dès cette année ou l'année prochaine ? C'est l'inconnu, parce que l'année prochaine, c'est quand même les 20 ans de l'iPhone, parce qu'en 2007, c'était la première version présentée par Steve Jobs. Donc, 2027, est-ce qu'ils ne vont pas décaler la sortie ? On sait que c'était une volonté d'Apple d'étaler les sorties, de ne pas tout concentrer au mois de septembre. Donc, ce serait une occasion de lancer l'iPhone 18 en septembre et l'iPhone Fold un peu plus tard, pourquoi pas en janvier ou février pour fêter les 20 ans de l'iPhone. Et également, il y a une inconnue sur le nom.
Le pliant, ça serait pour toi début 2027 ?
Non, c'est une des hypothèses.
Une des hypothèses, oui. D'accord.
Le fait que traduire ce que les leakers aujourd'hui essaient de résumer, que ce soit les Mark Gurman ou les Ming-Chi Kuo qui aujourd'hui alimentent en rumeurs et en leaks autour d'Apple. L'autre inconnu, c'est son nom. Il serait surprenant qu'il s'appelle l'iPhone Fold, notamment par rapport à ce qu'a fait Samsung avec le Galaxy. L'idée, ce serait plutôt de monter en gamme, proposer un produit beaucoup plus cher, ce qui est déjà le cas des modèles de chez Samsung. Et on serait plutôt autour d'un nom, autour du Ultra, donc l'iPhone Ultra.
Ok, iPhone Ultra. Avec là encore, c'est étonnant parce qu'on a même, Nico, des moules, des coques de ce futur téléphone, alors qu'il sort dans quoi ? Dans 4 mois, 5 ans ?
En fait, on sait que la fuite en fait, vient d'un accessoiriste. Après, est-ce qu'elle a été organisée, pas organisée ? On ne sait pas vraiment, mais en fait, une fois qu'on a les modèles 3D pour dessiner les coques, on peut reproduire le téléphone.
C'est ça.
Pour ça que vous avez vu pas mal de vidéos, on en voit pas mal sur les réseaux. En fait, les gars, ils ont récupéré les fichiers 3D avec une imprimante 3D, vous faites un
C'est dingue, comment ces accessoiristes arrivent à récupérer ces fichiers qui ont une valeur de dingue, en fait.
Je pense qu'ils sont communiqués par Apple. Comment tu es obligé d'avoir les cotes exactes pour pouvoir faire tes produits.
Je crois que c'est Apple qui fait,
parce que... de tradition qu'au printemps, chaque année... alors, il y a... Encore une fois, quand tu mets en place une chaîne de production pour des iPhones qui vont être tirés à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, c'est difficile de mettre en place une chaîne de, sous le manteau et que rien ne fuite. Il y a tellement d'enjeux, effectivement, tu l'as dit, Nicolas, que notamment les accessoiristes et fabricants de coques sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour avoir les cotes.
Okay.
Pas le fichier, parce que le fichier, ils ne l'ont pas. Comment ça se passe? C'est très simple. Ils vont graisser la patte à un ingénieur, un ouvrier d'un fournisseur d'Apple qui est en train de concevoir la chaîne de production de l'iPhone. Apple essaie de sécuriser au maximum, c'est-à-dire ne met pas à disposition, aucun iPhone ne peut sortir de l'usine. En revanche, ils ont largement le temps de faire des empreintes de cet iPhone. Donc, ils ont un petit moule en cire, comme dans notre enfance, Arsène Lupin qui faisait les doubles de clés.
C'est dingue, ça, quand même. C'est incroyable.
Voilà. Et ils font un moulage de l'iPhone, donc ils le glissent.
Et le mec, il fait ça entre deux trucs.
Donc, l'iPhone ne sort pas du coffre-fort.
Oui, ouais, c'est clair.
Et tu
il n'y a pas des caméras partout, il y a pas, c'est pas ultra
et
sécurisé.
À partir de l'empreinte, tu peux en faire une petite maquette. Il y a aussi tradition en Chine, tu en reviens Nicolas, qu'à partir du mois de avril-mai, ce qui est le cas maintenant, tu peux acheter la maquette de l'iPhone. C'est-à-dire que non seulement il y a le Belkin, je ne vais pas dire de marque, l'Extreme Mac, j'en sais rien.
Oui, ouais, enfin toutes les marques d'accessoires.
Voilà, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais après, sur certains marchés à Shenzhen, tu peux acheter des maquettes finies qui sont très proches du modèle final.
On appelle des mock-up.
Des mock-up, ouais. Exactement.
Ouais.
Au début, c'est très cher. Et puis, les prix baissent au fur et à mesure qu'on se rapproche de la sortie officielle. Tu verras qu'au mois de juin, au mois de juillet, pour quelques centaines de dollars, tu peux t'acheter la maquette.
Qui sera, on va dire, la version définitive.
Oui, parce qu'il faut du temps pour lisser une chaîne de production pour un produit. Parce que si Apple se lance dans un modèle pliable ou pliant, je ne sais jamais comment on dit, ce n'est pas pour en sortir 100 000 ou 200 000 exemplaires. L'enjeu, hein, c'est vraiment de sortir le pliable de sa niche de marché. Hein. Ça fait quoi, 10 ans aujourd'hui que Samsung a initié ce virage. Et ça reste quand même... Un produit qui, même s'il connaît un succès, c'est loin d'être un énorme succès. Ça reste quand même un marché de niche aujourd'hui.
Oui, parce que ça coûte très cher quand même, on ne va pas se mentir. Hein. Soit les folds, c'est... Voilà.
Est-ce que c'est un problème pour Apple?
Non, voilà. Après, les utilisateurs Apple, ce sera moins un problème. Mais ça reste quand même... C'est pour ça aussi que je crois que c'est 1% des smartphones qui sont payants aujourd'hui sur les ventes. Donc, c'est parce que c'est un produit cher. Moi, j'en ai utilisé... J'aime bien, sincèrement. J'en ai utilisé pas mal. Moi, je suis revenu à un smartphone classique, là, mais... C'est vraiment pratique pour ceux qui travaillent, ceux qui ont besoin d'éditer les fichiers. Le format de l'iPhone Fold, c'est ça qui est original. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais format carré. Donc, en fait, quand on l'ouvre, c'est quasiment un format panoramique.
Ça ressemble à ça. Là, j'ai mon passeport. Voilà. Vous avez l'iPhone Fold.
Voilà.
OK. Donc, il est plus petit que le Samsung Fold.
Il est plus carré. Quand tu l'ouvres, tu aurais un écran. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, il serait plus compact. Donc, ça veut dire que d'une main, tu peux beaucoup plus manipuler, alors que le Galaxy Fold, il est beaucoup plus haut et plus étroit.
Et t'as pas les bandes, t'auras pas autant de bandes noires au-dessus.
C'est-à-dire que tu peux regarder des vidéos dans un format qui est plus optimisé,
Optimisé. Okay. Bon, après, ils ont été marqués à la culotte, parce que Huawei a annoncé directement un client avec le même format.
tu m'étonnes.
En fait,
c'est facile, tu as les plans.
Même que Samsung devrait sortir un nouveau format aussi de Fold, qui ressemblera peut-être à celui-ci, je ne sais pas.
Entre le flip et le fold. Le flap.
C'est rigolo. Non, mais c'est vrai que ça va être quoi? Une fois ouvert, ça va ressembler à un iPad mini. On voit effectivement que c'est une philosophie tout à fait différente de celle explorée par Samsung ces dernières années, avec un écran 4 tiers plutôt qu'un écran 16/9. Ça veut dire quoi? Tu l'as dit, quand on regarde une vidéo, on n'a pas ces immenses... Mes amis chroniqueurs, je pense à Stéphane que tu connais bien, Stéphane Zibi qui intervient chez toi, notamment dans Tech & Co., aime bien sortir son Galaxy Fold et me montrer ses vidéos, mais il y a une énorme barre en haut. C'est ridicule, j'ai une image plus grande sur mon iPhone.
Évidemment.
Et là, tu auras vraiment l'équivalent d'un iPad sur un iPad mini sur ton Galaxy.
Et donc, un écran quand même en façade, c'est-à-dire que tu ne seras pas obligé d'ouvrir ton téléphone pour pouvoir faire les tâches.
L'écran de 5,5 pouces en façade.
14 cm.
5,5 pouces, ouais. C'est plus petit qu'un iPhone.
C'est plus carré et c'est plus taillé finalement pour la consommation de, ouais. de tout ce qui est aujourd'hui très, très à la mode, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram,
okay, d'accord. Tu vois, quand donc on pourra scroller des vidéos sans ouvrir le ouais, téléphone voilà, finalement.
Exactement. Et à l'intérieur, on est sur du 7,8 pouces, ça fait du 20 cm on va dire. Allez.
Voilà, 7,8 pouces, c'est plus grand qu'un iPad mini, non ?
C'est juste en dessous, 8,4.
Ah, c'est 8,4 ouais. l'iPad mini, pardon.
Donc, mais c'est très proche.
C'est proche quand même.
Après, la question, moi, ce qui me fait marrer, c'est comment en fait. Apple qui cultive le silence, le secret, qui a tout un art en fait pour contenir les infos.
La preuve que non.
Ah, mais là, ils entretiennent à mon avis, ils entretiennent le buzz. Hein. Le gars, si ça se trouve, ils l'ont aidé pour prendre les photos. tiens, attends, je te tiens.
Tu reçois par courrier les plans, c'est ça voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez frustrant.
On ne saura jamais de toute façon. On ne sait pas si Apple est en sous-main et distille ces informations pour qu'après elles partent dans la nature ou est-ce que véritablement.
Ils entretiennent quand même un truc parce qu'en fait ils sont tellement en retard là-dessus qu'en fait
mais tu sais quoi, je pense qu'ils sont en retard mais ils s'en foutent en fait
le
Fold ils ont attendu que la technologie soit mature. Regarde l'écran de ce Fold, parce qu'on peut peut-être rentrer dans les specs, mais l'écran de ce Fold aurait une particularité, c'est qu'on ne verrait pas la pliure ou très peu, ce qui était quand même le gros problème des précédents Galaxy Fold, où on voyait quand même, la trace de la pliure, tu vois.
Aujourd'hui, ça va vachement mieux. En fait, moi, je pense aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a qu'un seul pourcent, 1% des smartphones aujourd'hui vendus qui sont pliants, c'est qu'en fait, les gens attendent de voir ce qu'Apple va sortir. Et je pense que le fait de fuiter comme ça, ça bloque aussi. T'es, les gens, ils disent, ah, mais attends, j'attends la version Apple.
Apple est meilleur évangélisateur. Oui. On dit évangélisateur
ouais,
je pense, du marché et va permettre...
Évangéliste
du marché. Et va permettre de démocratiser ce marché du pliable. Oui, on le sait, c'est d'autant plus amusant que le fournisseur de l'écran, ça va être Samsung, et qu'à la demande d'Apple, ils vont fournir un écran où on ne verra pas la pliure, c'est ça qui est fou. Il y a quelques infos intéressantes, quelques rumeurs, apparemment. Alors, ça fait 10 ans qu'on entend ça chez Apple, on entend parler du liquide métal. Tu te souviens du liquide métal ?
Oui.
Alors, ça n'a rien à voir avec Terminator, les plus anciens d'entre
nous. Non, c'est l'OS, en fait, la modification de l'OS.
Non, là, je te parle vraiment d'un nouveau...
Pour le refroidissement, c'est
non,
ça ?
Non, liquide métal, en fait, c'est un nouveau métal, une nouvelle manière de produire du métal, dont le procédé a été acheté par Apple. Il y a une quinzaine d'années, et ça fait depuis 10 ans qu'on entend qu'Apple va l'utiliser pour remplacer le titane et l'aluminium dans l'iPhone. Pourquoi ? C'est pas tellement pour des questions d'excipation thermique, c'est qu'il encaisse mieux les chocs, c'est plus robuste et surtout c'est plus souple.
D'accord.
Et apparemment, pendant des années, on nous a dit, allez voir, ça va être extraordinaire, tous les liqueurs, et puis l'iPhone 5, l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8, on disait, vous allez voir, il y aura du liquide métal. Puis c'est jamais arrivé. Tu sais dans quoi c'est arrivé, le liquide métal chez Apple ? C'est arrivé, c'est le petit trombone que tu as dans la boîte de l'iPhone qui permet d'éjecter la carte SIM. C'est du liquide métal.
Ça alors ? Ah bon ?
Voilà. Et a priori.
Oui, ils ont commencé par petit, quoi.
Par très petit.
Pas facile.
Et a priori, donc, le nerf de la guerre des modèles pliants, c'est la charnière.
Oui, la charnière. Ouais.
Elle serait en liquide métal.
Elle permettrait
d'avoir cette souplesse et cette résistance, et qui aiderait aussi d'avoir un écran qui ne serait pas, qui on ne verrait pas la pliure.
Bon.
Wait and see.
Ouais, on verra. Appareil photo, on a une idée ou pas ?
Deux capteurs, 48 mégapixels.
Ok.
Ce qui est pas mal.
Donc l'équivalent, on va dire, d'un ancien iPhone. Parce que
donc comme l'iPhone 17, quoi.
Mais pas le Pro.
On va
rétrograder en termes de qualité.
Très grand temps.
Voilà, ok.
Il y a toujours, de toute façon, un compromis sur ce genre d'appareil.
Bien sûr,
généralement, ils sont, même chez tous les... Que ce soit Google ou Samsung, généralement, les capteurs sont un peu... légèrement moins bon que sur les modèles haut de gamme.
Après, la vraie question, ça va être l'autonomie. Qu'est-ce que ça va donner ?
Ouais.
Est-ce qu'on va avoir une nouvelle technologie de batterie, comme on voit que ça arrive, notamment sur les Honor Magic Pro, etc.
Et Apple est plutôt en retard. Hein.
Et Apple est plutôt en retard. On l'avait déjà remarqué sur l'iPhone Air, qui intègre une batterie d'une précédente génération.
Silicone carbone, on attend.
En gros, c'est deux iPhone Air empilés, en fait, en termes d'épaisseur. Si vous voulez avoir une idée précise de
deux iPhone Air empilés, ça va être ultra fin quand même.
Ouais.
Ça va être une vraie réussite. Et moi, je pense que ça va être un carton, ce téléphone, c'est sûr, parce que même s'il coûtera 2500 balles minimum...
Ouais, entre 2 et 2500 balles.
Voilà, ça va marcher, et puis surtout, ça va faire décoller le marché du pliant, ça c'est certain.
Ouais. Ils annoncent une épaisseur de 9,4 mm refermée, alors que le Z Fold 7, il est à 8,9, et par contre, quand ouvert, 4,7 mm, là, ce qui est pas mal du tout. Là.
Ouais.
Ok, donc il sera un peu plus épais, fermé.
Fermé.
par rapport à l'iPhone, par rapport au Galaxy Fold de dernière génération.
Voilà. Et ouvert, par contre, il sera ultra fin, quoi.
Oui, parce que l'iPhone Fold est plus élancé, ouais, plus long, donc ouais, il permet
de stocker voilà, plus de choses.
Répartir la batterie sur la longueur plutôt que sur l'épaisseur. Il y a quand même quelques inconnus autour de ce Fold. Tu sais qu'Apple, en matière de sécurité, ils nous ont mis en place ce qu'ils appellent de Face ID, tu sais, ce système de reconnaissance faciale. Là, c'est compliqué vu la finesse de l'engin. Alors, les derniers leakers nous disent qu'il n'y aurait pas la place pour mettre un Face ID. On reviendrait à Touch ID, donc
ouais,
le petit
c'est
bouton.
Étonnant, ça, hein.
Moi, ça m'étonne vraiment qu'Apple revienne en arrière. Wait and see sur ce point-là. Il y a un inconnu aussi autour du MagSafe, hein, le petit port au dos pour... chargé, aimanté également, ce serait quand même assez étonnant qu'Apple...
Oui, parce que c'est, en plus, ça sera un téléphone haut de gamme. Donc, si c'est du haut de gamme et que tu perds quand même des fonctionnalités, j'allais dire presque basiques, d'un téléphone normal, ça va être compliqué, quoi. Donc,
voilà. Et puis, là, tu l'as dit, là, on a en préambule, la frustration de se dire que dès le mois d'avril, on sait déjà tout de cet iPhone et on a plus l'effet voir, l'effet surprise en arrivant à la keynote, en disant qu'est-ce qu'il nous réserve. C'est le vieux Macophile qui ressort.
Malgré tout, il y aura quand même le petit frisson de découvrir un iPhone avec un nouveau form factor.
Ouais,
ça serait cool.
Quelques surprises au niveau du design.
Et peut-être aussi quelques surprises
et
au niveau
l'intégration de l'OS. Moi, je attends vachement ça, parce qu'en fait, tu vas sur Android. Moi, c'est là où je suis assez frustré sur les clients Android.
Ouais.
Je trouve que l'OS, il n'est pas... Il n'est pas taillé pour.
Ouais.
Si, c'est taillé pour, il te rajoute des fonctions, etc.
Mais c'est pas hyper optimisé.
Je sens qu'Apple, peut pour relever le niveau.
Et ça va être intéressant de voir s'ils trouvent des fonctionnalités intéressantes, des killer apps finalement, avec un iOS qui peut se transformer quand on ouvre un double écran. Tu vois.
Moi, j'étais très surpris l'année dernière lors de la WWDC qui nous annonce iPadOS 26, tu sais, avec vraiment la possibilité sur l'iPad de faire ce que fait un Mac, et puis ces systèmes de multifilétrage qu'on attendait sur iPad depuis des années. Et je me disais, mais pourquoi ils font ça maintenant? Et quand tu as un iPhone Fold, qui est un iPad mini en fait, qui arrive, et si tu as cette fonctionnalité de multifenêtrage que tu retrouves sur l'iPhone Fold, on comprend mieux pourquoi ils ont fait ça l'année dernière.
Mais est-ce que ça va être, donc il va être sous iPadOS, cet iPhone Fold?
Je pense que ça va être un mix,
Un mix, hein.
Ça devrait être un mix, mais encore une fois, la conférence développeurs, le mois prochain, au mois de juin.
Il paraît qu'elle va être super, cette conférence des développeurs, parce que Apple devrait aussi accélérer, annoncer pas mal de choses concernant l'IA. Il était temps, vous allez me dire, mais bon, ça va être intéressant.
C'est la dernière de Tim Cook.
Et c'est la dernière de Tim Cook aussi. Tim Cook, belle
transition.
Merci.
Ça, c'est
le professionnel du podcast. Mesdames, messieurs, je ne peux que m'incliner. Tim Cook, tiens, donc...
Je mets mon mouchoir parce que je suis...
T'es un triste.
Tout très, très ému.
On en parlait la semaine dernière, donc Tim Cook va prendre du champ, comme on dit, du recul. Il va quitter son poste de CEO, il va être remplacé par John Ternus. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais juste, tu voulais faire un point, en fait, sur la nouvelle mission de Tim Cook, parce que Tim Cook ne va pas avoir un rôle, on va dire, de peau de fleur chez Apple. Il va gérer des choses hyper importantes, voire stratégiques.
Alors, il va être chairman, donc le président du conseil d'administration, mais il ne va pas se contenter de valider ou pas la politique de John Ternus. Il devrait s'occuper de l'aspect du volet plus politique et réglementaire, et aujourd'hui qui est très important dans la tech, surtout dans le contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui. On sait que c'était lui aujourd'hui qui... et ça lui a eu beaucoup de critiques et qui était pas très loin de l'administration de Trump pour négocier effectivement les tarifs, enfin plutôt les droits de douane, parce qu'aujourd'hui la majorité des produits sont produits en Chine, chez Apple. Voilà, donc il continuerait à avoir cette casquette-là, d'à la fois de pouvoir négocier avec l'administration américaine et calmer un petit peu l'impatience d'un Donald Trump qui souhaite qu'Apple relocalise aux États-Unis une partie de sa production. On a vu que cette année, ils ont ouvert une usine au Texas, même s'ils ne produisent pas l'iPhone là-bas, bien sûr, mais ils vont produire quelques serveurs. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce qu'ils vont produire. Quelques serveurs pour Apple Intelligence, peut-être quelques Mac Mini en 2027 ou en 2028.
Des petits trombones pour...
on ne sait pas. On sait surtout que c'est un campus en matière de DIA qui est important. Ils vont faire beaucoup de cloud. En tout cas, il calme l'impatience. Il a réussi à relativement calmer l'impatience de l'administration américaine. Et puis, il y a des enjeux au-delà des États-Unis. Bien sûr, en Europe, parce qu'il y a une réglementation européenne de la Commission européenne qui est importante. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, il y a des aspects dans lesquels Apple doit répondre. Et puis, il y a des jeux de lobbying. Et puis aussi, la Chine. Et la Chine, c'est vraiment le berceau. C'est là où Tim Cook a fait des merveilles avec la logistique. Donc, c'est lui qui devrait continuer à négocier avec les...
Donc, toujours un poste, on va dire, non pas honorifique, mais hyper important.
Ce serait l'ambassadeur d'Apple, en clair.
Apple, ouais.
Et ça permettrait aussi de préserver Ternus des critiques, parce que c'est vrai, quand tu vas signer, serrer la main ou tu es proche d'un Donald Trump dans la Silicon Valley, qui est plutôt démocrate, ça peut créer quelques inimitiés. Donc, c'est une manière aussi de le protéger.
Hein. Oui, c'est ça, c'est clair.
Et puis, la Chine, c'est un beau marché aussi pour Apple. Hein. Le dernier a très, très bien marché là-bas, le dernier iPhone. Je pense qu'il faut faire gaffe. Quoi. C'est touchy comme sujet en ce moment.
Il y a un double enjeu. Il y a à la fois l'enjeu, effectivement, de faire en sorte de ne pas contrarier la Chine, parce que si demain on arrête de produire en Chine, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça reste un des marchés les plus importants d'Apple au monde de vente en Chine, et qu'il faut continuer à se développer là-bas. Donc, c'est assez complexe comme enjeu. L'enjeu n'est pas juste industriel et juste de produire le meilleur iPhone du monde. Hein.
Voilà.
Il faut aussi pouvoir continuer à le distribuer et le produire.
Et le passage de flambeau est prévu le 1er septembre. Hein. C'est ça, officiel, même si, début à mon avis, il a enclenché depuis
juste avant la keynote
un grand moment.
De l'iPhone, justement.
Voilà, donc c'est Ternus qui devrait être aux commandes de la keynote de l'iPhone de septembre. Allez, on enchaîne avec... Tiens, on a parlé Samsung tout à l'heure. Il faut savoir que Samsung ne s'endort pas sur ses lauriers, bien au contraire. Et devrait sortir, là, bientôt, hein, Nico, une paire de lunettes connectées. Alors, ça fait un moment. Elle est sortie, ça y est ?
Elles arrivent, elles sont là. Elles sont vraiment là. On est vraiment dans la dernière ligne droite. On les attendait. Bon, ils ont mis pas mal de temps pour les...
Elles n'ont pas été annoncées officiellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles vont être annoncées là, dans les semaines qui viennent, ou bien à l'occasion de la présentation des nouveaux Folds qui est prévu cet été.
Nom de code Jinju, pour l'instant on connaît
Jinju.
Voilà le nom de code, et il y a deux fenêtres de lancement potentielles, la Google I.O. fin mai.
Okay. C'est logique.
Parce qu'elle est conçue en collaboration avec Google.
Oui, elle fonctionne sous Android XR, qui est le système d'exploitation pour ce genre d'appareil. Au mois de juillet, il y aura un lancement sur les smartphones pliables de Samsung. Et voilà, donc ce sera l'occasion aussi de les dévoiler. Donc voilà, donc deux fenêtres potentielles.
Qu'est-ce qu'on sait de ces lunettes?
Alors, on sait qu'elle ressemble énormément au Meta Ray-Ban. En fait, là-dessus, il n'y a pas eu de révolution. Il n'y a pas d'écran intégré à l'intérieur.
Il n'y a pas d'écran.
On est vraiment sur exactement le même concept. Le concept qui marche, en fait. En fait, ils sont revenus, tu te rappelles, on n'arrête pas d'en parler. Moi, c'est ce que je trouve génial sur les lunettes Meta, c'est qu'elles sont simplissimes. Eh bien, écoute, 4 ans après, elles arrivent chez Samsung. Donc voilà, tout ça pour ça. Il y aura une puce Snapdragon à l'intérieur conçue en collaboration avec Qualcomm. Elle ferait 50 grammes, intégrée une batterie de 155 mAh. Donc là, on est sur un truc classique. Une caméra de 12 mégapixels. Voilà, Wi-Fi, Bluetooth et haut-parleur directionnel dans les...
Donc les Meta Ray-Ban, mais version Samsung. Quoi.
Voilà, version Samsung. Alors moi, bien sûr, il y a un microphone intégré.
Et puis elles seront connectées à Gemini.
Voilà. Et là, l'avantage, c'est qu'elles auront l'IA de Google.
Ouais. C'est quand même un plus par rapport à l'IA de Meta. Parce que franchement, Meta AI, c'est une tannée.
L'écosystème, Meta. Ouais.
Ah non, mais leur IA, c'est pas niveau Cotorep, mais c'est pas loin.
C'est vrai. Moi, combien de fois je discutais comme un imbécile à mes lunettes, elles ne comprenaient rien, elles me répondaient à côté. Enfin, on est à des milliards d'années-lumière des conversations qu'on peut avoir avec ChatGPT, par exemple.
Imaginez les conversations que vous avez sur votre téléphone avec un ChatGPT ou un Gemini. Ça n'a rien à voir sur le Meta. Hein. Vraiment, on est au niveau Siri moins, quoi.
Alors, visiblement, il change d'IA, tu as vu, chez Meta. Ouais, donc, il devrait arriver avec une nouvelle IA qui ressemblerait plus à celle de ChatGPT.
Combien de milliards pour ça, quoi?
Certes.
Donc voilà. Oui. Mais par contre, on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils ont shooté en premier, ils ont eu la vision, ils ont le produit exact. Le seul truc qui me dérange, moi, c'est qu'ils ne se sont pas adossés avec des marques. Alors, pour l'instant, c'est peut-être le truc marketing qu'on ne sait pas, mais bon, porter une paire de Samsung...
Ouais. C'est vrai que si elles sont neutres et que tu te dis, on dirait une paire de lunettes de soleil basique, ni trop LED, ni trop belle, tu vois, enfin, un truc qui finalement, la force des Meta, des Ray-Ban Meta, c'est que c'est Ray-Ban, si tu veux, et que tout de suite, tu t'identifies, il y a un statut, il y a un style.
Isidore
Luxottica, c'est ça ? Isidore Luxottica, effectivement. Donc là, est-ce que tu es prêt à porter des lunettes Samsung qui n'ont pas de code, en fait, de style
On n'est pas Apple qui veut, hein.
Apple, ça va être le même problème.
Je pense pas.
Apple, je pense que oui, moi je suis d'accord.
Lunettes Apple.
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Ils font des lunettes Apple. Voilà. Ouais, et d'accord. Les casques Apple, les produits Apple, tu vois bien, c'est ces produits qui sont, comment dit-on, il y a un terme pour ça aujourd'hui, en termes de, qui sont faits pour être revus.
Ouais, mais
on n'est pas loin du marché du luxe quand même avec Apple aujourd'hui.
Non, c'est ostentatoire, ouais.
Voilà. Et la pomme fait vendre. C'est une griffe aujourd'hui, Apple.
Non, mais t'as beau avoir des montures fines, des lignées épurées, esthétiques, un design, c'est pas ce qui fait que globalement tu auras envie de les porter. Tu
Moi, je suis persuadé que la plupart des gens qui portent aujourd'hui des Ray-Ban Meta, c'est parce que c'est avant tout des Ray-Ban.
Bien sûr.
Et après, il y a du Meta, tu vois, à l'intérieur. Et là, pour Samsung, et même, je suis pas d'accord avec vous, pour Apple, ça va être compliqué parce que Apple est très bon dans le design de la tech, mais n'est pas bon. Enfin, a toutes ses preuves à faire dans un design, on va dire, épuré de choses qu'on porte au quotidien. Tu vois ce que je veux dire ?
Regarde
une paire de lunettes, c'est pas un téléphone, c'est pas un iPad.
Regarde le carton qu'ils ont fait avec les Apple Watch, avec les bracelets Apple Watch, ils sont associés avec des
marques. Ouais, mais on ne peut pas dire que l'Apple Watch soit très belle, tu vois ce que je veux dire.
Mais
c'est pas un truc que tu mettrais...
Regarde le coup qu'ils nous ont fait l'année dernière, tu avais reçu, et j'étais avec toi ce jour-là, notre ami JB qui nous avait présenté le système de housse de l'iPhone qui avait fait un carton auprès des influenceurs luxe par la planète. Enfin, je ne suis pas du tout inquiet. Pour moi, tu vois bien l'Apple Store comment c'est présenté, ça ne reprend pas les codes de la tech, hein. Tu as Louis Vuitton qui est juste en face sur les Champs-Élysées, ce n'est pas un hasard. Ça va être intéressant à suivre. Est-ce qu'ils vont réussir ? On verra. Mais pour moi, Apple, je ne sais pas si c'est une marque de luxe ou si c'est une marque premium. Hein.
Ça va dépendre après beaucoup du design aussi.
Voilà. Oui, mais ça...
Je pense qu'ils vont, ils vont sortir quelque chose qui...
Non, mais quand bien même, tu peux faire un design, tu peux faire des lunettes Samsung hyper design. Ils font des très beaux produits Samsung. Mais est-ce qu'une marque qui fait des frigos, de l'électroménager... évoque pour quelqu'un qui va acheter des lunettes la même chose que peut évoquer dans l'inconscient quelqu'un qui achète des Ray-Ban depuis 50 ans.
Alors juste une chose, une petite digression, mais Samsung a sorti une bague connectée qui était horrible, mais horrible. Et quand j'ai vu ça, je me dis mais c'est pas possible. Et puis bon voilà, ça n'a pas été un succès.
Voilà, et c'est pour ça que moi je pense quand même qu'Apple est au-dessus en termes de design. Alors oui, effectivement, Samsung, il y a des beaux produits chez Samsung.
Ouais, mais est-ce qu'Apple a la légitimité de s'installer sur, on va dire, un objet dont ils n'ont pas la légitimité. Tu vois, c'est ça la question.
Ouais, mais ce qui apporte une valeur ajoutée, comme a apporté les autres produits qu'Apple, qui a aussi. Enfin,
le design, c'est qu'un aspect. Smartphones, quand ils sont arrivés, quand il y avait des Nokia, ils étaient en haut de la pyramide. Ils sont arrivés, pareil, on disait, ah bah ouais, mais un fabricant d'ordinateurs qui fabrique des téléphones, bah, ils ont réussi à tout péter, hein. Parce que le design était exceptionnel.
Oui, mais je pense que la différence, c'est qu'on est toujours sur des produits tech. Les lunettes, ce n'est pas un produit tech. Avant tout, c'est un produit de statutaire, stylé, qui te représente. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un côté mode, ouais.
Mais le côté statutaire,
la tech, elle sera bien intégrée dans les lunettes Apple. Ça, je n'ai pas de souci. Ça sera très bien. Mais est-ce que ce seront des lunettes qu'on aura envie de porter et qui vont te ressembler? Tu vois?
Encore une fois, c'est
l'Apple Watch, tu la portes, mais qu'elle te ressemble ou pas.
C'est l'Apple Ultra, c'est un peu un produit statutaire aussi, mais la plupart des gens achètent une Ultra, ce n'est pas des Ultra sportifs, parce que c'est le modèle haut de gamme d'Apple. Moi, je crois beaucoup au positionnement statutaire d'Apple aujourd'hui. Après, je ne suis pas un spécialiste du marché des lunettes, mais l'avenir nous le dira. Ce n'est pas par hasard si Meta a pris des parts dans Essilor Exetica pour verrouiller ce marché-là. Ils ont très bien fait de signer avec Ray-Ban. Et c'est vrai que moi qui porte des lunettes depuis le berceau, je préfère acheter des Ray-Ban que des lunettes Samsung. Mais c'est aussi, il n'y a pas que le design, il y a aussi la valeur ajoutée, l'écosystème. Ce qui a fait le succès du premier iPhone, c'est l'écran, pas revenir là-dessus, mais c'est quand même l'écran multi-touch. Il n'y avait pas d'équivalent sur le marché, ils ont fait un carton. Si demain, tu as un écosystème, tu as un système, tu as des lunettes avec un écran intégré qui fait ce que fait l'Apple Vision Pro aujourd'hui, je le signe dès demain.
Hein. Ah, ou même une IA tout court qui fonctionne. C'est vrai que ça peut être
Il y a encore du chemin pour Apple aussi.
Non, mais
bon, on verra, mais ça va être intéressant.
Pour Samsung, fait d'embarquer Gemini, je pense que ça peut être
exactement.
Mais là, ça va être sympa. Il me tarde de tester ça. Tu vois.
Moi, c'est le premier truc que je vais tester.
Ça va être cool. Parce que tu vas pouvoir discuter vraiment avec quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, une IA qui a du répondant.
Réactive, qui a du répondant. Tu comprends ce qu'il te dit, qui ne parle pas moitié en anglais. Voilà quoi.
Exactement. Tiens, puisqu'on est dans l'IA, belle transition encore une fois les amis, parce que visiblement OpenAI sera en train de nous préparer une espèce de... Alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme un smartphone, mais en tout cas, un produit qui serait censé remplacer le smartphone. Il n'y aurait plus, si j'ai bien compris, d'application.
Non, mais plus deux.
les applications, en fait, tu les créerais, tu lancerais en fait des usages simplement en parlant à ton téléphone.
Voilà, en parlant à ton téléphone. En fait, ton téléphone t'enregistrerait en permanence. En fait, donc OpenAI est en train de s'associer avec Qualcomm et MediaTek en fait pour s'associer avec des fondeurs pour revoir complètement les processeurs pour que les processeurs puissent enregistrer et faire en continu. C'est que pour que leur IA puisse comprendre le contexte et qu'on puisse interagir avec l'IA de façon totalement naturelle et pouvoir se passer d'une interface graphique. Donc plus d'écran d'accueil, plus d'icônes, etc. Et avec des échanges en permanence. Alors bon, le truc là, on est sur c'est le début. Hein, ça y est, c'est une rumeur qui se concrétise. Comment ça se concrétiser ? On sait qu'il y a des accords qui sont en train de se faire avec MediaTek et Qualcomm. Les premiers, il y a d'autres accords qui auront lieu d'ici à la fin de l'année pour une sortie plutôt en 2028 que maintenant. Hein.
On n'est pas tout de suite.
On n'est pas sur du tout de suite. Mais le concept, c'est ça. C'est que voilà, des composants qui priorisent la gestion de la mémoire et l'exécution des modèles de langage sur le téléphone. Voilà.
C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, tu as envie de manger une pizza.
Tu vas dire à
ton téléphone, enfin je sais pas quoi,
Jarvis,
voilà, ouais. Commande-moi une pizza. Il va savoir que t'aimes bien la pizza 4 fromages parce que tu avais commandé ça, machin.
Ouais, ou que t'en as parlé.
Il va détecter où t'en as parlé. Ouais. Bon, ça c'est un peu flippant entre nous. Hein, il va savoir où tu es parce qu'évidemment t'es géolocalisé. Et en fait, en quelques secondes, tu vas pouvoir commander une pizza sans lancer Uber Eats ou Deliveroo. Ouais. Et en choisissant, quoi.
Voilà, donc en fait, si ça se trouve, il va même s'appuyer sur le service de Uber Eats et Deliveroo, il va faire comme un agent IA.
Oui, bien sûr, mais voilà, ça sera transparent pour toi.
Ça sera transparent pour toi, t'auras plus besoin d'appuyer avec tes doigts,
est-ce que c'est le fameux projet de Jonathan Ive ou pas ?
Moi, je pense pas. Je pense pas. À la base, c'était plutôt une sorte d'enregistreur IA. Pas d'enregistreur IA, mais c'était comme de Rabbit, tu te rappelles d'appareil que tu as avec toi en permanence, etc. Moi, je pense que il le présente comme un iPhone, quoi, un téléphone à intelligence artificielle. C'est qu'il y aura un écran quand même. En fait, si tu as envie de regarder une vidéo, faut bien qu'il y ait un écran.
Ouais,
tu as envie de regarder une carte.
Tu as envie de lire un mail. En confidentialité ou quoi que ce soit.
Voilà, tu veux te repérer. À un moment, tu vas avoir obligé d'avoir accès à un service de cartographie, parce que c'est bien, il va te dire, bah ouais, t'es rue machin, ça me donne une belle jambe, ça me fait une belle jambe, parce que globalement, je sais pas où je suis, montre-moi la carte.
Tu vois, c'est... Ouais, donc on aura toujours besoin d'un écran et d'un support visuel. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier ?
Non, mais j'ai toujours l'image de l'annonce du fait que OpenAI et Sam Altman rachètent la boîte de Johnny Ive, qui est quand même le papa de tous les produits iconiques d'Apple, ouais. L'iPhone, l'iPad, le Mac, l'iMac, l'iPod, et j'en passais des meilleurs. Donc c'est pas et a priori, ils chapeautent tous les designs matériels et interfaces à venir d'OpenAI. Donc je pense qu'il va. Et quand on a participé de près à l'aventure de l'iPhone, c'est une valeur ajoutée évidente. Après, il faut quand même un mécano industriel énorme pour pouvoir sortir des produits à des millions d'exemplaires. Il faut un écosystème derrière. Mais en tout cas, c'est un asset et c'est une valeur ajoutée énorme. J'aurais préféré qu'il reste chez Apple, moi, en tant que vieux briscard du Mac, c'est clair.
Et ils sont adossés avec un partenaire d'Apple, Luxshare, là, qui est déjà présent dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple, là, notamment. Donc justement pour pouvoir monter un système similaire. Quoi.
Ok.
Voilà, bon, à la Sam Altman, après... Moi, ce qui me dérange aussi énormément, c'est qu'effectivement, j'ai besoin d'un designer. Allez, je te prends le meilleur, machin truc. Combien de milliards, on s'en fout. Je prends les milliards, etc.
Allez.
Le fournisseur, je prends le meilleur. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est que beaucoup de milliards, mais pour au final, est-ce qu'un jour, ça gagnera de l'argent, OpenAI ? Je ne sais pas.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Pour l'instant, c'est un puissant fond.
Et puis, rappelons quand même l'aventure industrielle que c'est de sortir un produit tech.
Ah, oui. Hein.
Là, ils sont sur du soft. Ouais. Mais sortir un produit tech... Le valider, le comme tu le disais, hein, la chaîne de logistique, etc., tout ce qui est supply chain, c'est compliqué. Ça coûte énormément de cash parce qu'il faut que tu crées du stock. Enfin bon, voilà.
Travailler avec des fondeurs, les gars, ça va coûter.
L'aventure de Microsoft avec le Windows Phone. Hein,
quelque chose.
Et par contre, ceux qui sont bien placés pour le faire, à mon avis, ce serait là aussi, c'est encore Google, parce qu'ils savent fabriquer des smartphones, ils savent fabriquer des puces.
Bien sûr.
Que ça aussi.
Mais même Apple, je vais te dire.
Et dans Apple aussi. Ouais, dans Apple, ils ont déjà un petit peu de retard, mais il va falloir pédaler. mais quand ils auront rattrapé leur retard...
Peut-être qu'ils vont s'accélérer d'un coup, là. Hein. Tiens, j'aimerais, puisqu'on parle de ces nouveaux produits encore un peu mystérieux, sur Clubic, il y a un article très intéressant sur des nouvelles générations de capteurs d'image, Nicolas, qui sont justement liés à tout ce qu'on dit là.
Voilà. C'est STMicroelectronics, c'est annoncé ça cette semaine. Ce sont des capteurs.
Alors déjà cocorico les amis.
Ah bah c'est français.
STMicro, c'est franco-italien.
Ouais. Hein? Un Kroll.
Voilà, ils sont à Grenoble, nos amis de STMicro. Voilà. On les aime beaucoup.
Donc ils ont annoncé des capteurs à obturation globale qui en fait, au lieu de travailler à balayage comme sous tous les capteurs photo, en fait un capteur qui filme en permanence. Donc c'est des produits qui s'adressent aux lunettes connectées, aux caméras de vidéosurveillance. Je ne sais pas quel produit, mais en tout cas tous les produits avec des caméras, des produits connectés, des caméras qui filment quasi en permanence.
Ouais.
Donc au lieu d'avoir des capteurs qui fonctionnent à balayage, c'est-à-dire en fait tu analyses en permanence chaque ligne de pixels, savoir si c'est un truc qui a changé, en fait c'est des capteurs qui vont signaler au système qu'il y a quelque chose qui a changé, mais d'un coup. C'est pas en balayant, etc. C'est l'image, elle change, tac, j'envoie le système.
Donc ça consomme moins d'énergie, j'imagine ?
Ah bah, beaucoup moins d'énergie, 10 fois moins d'énergie. 10 fois moins d'énergie. On appelle ça un fonctionnement piloté par événement, en fait.
OK.
Et donc voilà, donc là, on est sur des produits, donc deux capteurs. Alors les définitions, elles ne sont pas énormes. Hein. C'est du 800 par 700.
Ça suffit, en fait.
10 images par seconde, ce qui est largement suffisant. Mais ça va permettre d'avoir des capteurs hyper économes, qui tiennent quasiment toute la journée.
Mmh.
Là où avant, on était obligé d'avoir des batteries hyper mastoc.
Des vraies caméras.
Ou des trucs reliés au secteur.
Ouais.
Et là, ça va te permettre de pouvoir...
En matière de surveillance.
Ah bah oui.
Ça va être génial. Ouais.
En fait, globalement, le capteur alertera le système uniquement s'il y a quelque chose qui change.
Oui.
Au lieu d'avoir un système qui scanne ce qui se passe.
Oui. C'est génial.
On est dans un truc hyper... Et ça va... Alors c'est comme ça qu'en fait on parle de miniaturisation, etc. Souvent on dit on va avoir un meilleur coefficient au niveau des batteries, avoir des batteries plus compactes avec plus d'énergie, plus de densité énergétique. Et en fait non, il y a aussi la techno qui est autour et qui change. On a des processeurs qui aujourd'hui sont devenus vachement économes. Hein. Apple le sait bien. Après avoir développé ses propres puces, ils ont pu faire des choses top en termes d'autonomie. Et c'est pareil pour tous les composants qui composent soit votre smartphone, soit vos lunettes connectées, soit vos caméras de vidéosurveillance, soit votre téléviseur, pareil.
Bon, à suivre. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Frigara, On refait le Mac. Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Si vous êtes avec nous en audio, vous retrouverez Olivier et Nicolas dans le petit module bonus. On va parler du USB-C parce que ça bouge là aussi. Tiens, il y a maintenant des obligations d'équipement en USB-C et même pour des appareils autres que les téléphones. On en parle, ce sera donc rien que pour vous en module bonus. Et si vous êtes avec nous à la radio, à la télé, surtout ne touchez à rien. On revient dans un instant, deuxième partie. Ce sera notre rendez-vous Labo Fnac avec Lionel Costa. On s'intéressera aux enceintes nomades. Quelles sont les nouveautés dans ce domaine ? Est-ce que ça bouge là-dessus ? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix ? La réponse juste après ceci. Merci d'être là, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et voici la deuxième partie de ce De quoi je me mêle, toujours très heureux de vous accompagner, De quoi je me mêle. On est là chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, tout au long du week-end et puis aussi dès le vendredi sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en podcast audio. On va parler maintenant enceinte nomade. Et oui, les beaux jours arrivent, vous l'avez sans doute remarqué. Et qu'est-ce qu'on aime faire quand les beaux jours arrivent? C'est écouter de la musique, alors soit sur notre terrasse, soit dans des parcs, soit parce qu'on va gambader à droite à gauche. Lionel Costa nous a rejoint et c'est un spécialiste de la promenade avec du son. Salut Lionel.
Salut François.
Évidemment Lionel qui bosse au Labo Fnac, tu es directeur du développement du Labo Fnac.
Du Labo, maintenant directeur du Labo.
Directeur du Labo Fnac. Le Labo Fnac qui teste, vous le savez, des centaines et des centaines de produits chaque année dans énormément de domaines, hein, évidemment l'image et bien sûr le son. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va se faire un focus sur les enceintes nomades. Est-ce que ça bouge, dans ce domaine-là? C'est la première question que je pourrais te poser. Est-ce qu'il y a de l'innovation encore dans ce truc-là ou finalement, les constructeurs déroulent un peu leur technologie?
En fait, c'est un peu ça. La compatibilité, la connectivité, c'est peut-être ce qui évolue le plus.
parce que du son, ça reste toujours la même chose, pardon de rabâcher, mais c'est du déplacement d'air. C'est vraiment toujours ça. C'est de la physique. Les tympans ne vont pas se réinventer une nouvelle façon de fonctionner. C'est toujours de l'air qui rentre à l'intérieur de l'oreille. Donc, c'est de l'air déplacé. Donc, il y a toujours ce phénomène-là. Là où il y a quand même des vrais ajustements, c'est donc sur la connectivité. Donc, beaucoup plus connectable à n'importe quel type de périphérique. Le ratio énergie-autonomie est vachement intéressant aussi. On a des choses, des gains aussi qui peuvent arriver là-dessus. On a aussi tout ce qui est, pourquoi pas, assistants vocaux ou, ils aiment bien mettre de l'IA dedans un peu partout pour dire qu'on va détecter le bruit ambiant et puis donner quelque chose de plus qualitatif. Mais sinon, ça reste quand même très conventionnel. Ça reste des enceintes, des produits qui émettent du son.
Après, la qualité du son, elle, il y a un vrai différentiel. Il y a une vraie différence entre chaque constructeur, entre chaque modèle, bien évidemment. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous testez tout ça. Comment vous testez, en fait, une enceinte nomade à la FNAC ?
Merci de me donner l'occasion quand même de redire qu'au Labo FNAC, je ne suis évidemment pas tout seul. Il y a toute une équipe de passionnés derrière. Donc, on est une petite équipe, on est moins de 10. Et on a des équipements qui sont assez extraordinaires, qui selon moi sont pas assez exploités et pas assez communiqués. On a par exemple une chambre acoustique anéchoïque complète, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, c'est une chambre sourde, hein, c'est grosso modo une chambre qui ne laisse pas passer de son.
Et ça résonne pas quand tu testes quelque chose à l'intérieur.
Exactement.
C'est
pour ça le mot anéchoïde, c'est vraiment ça, c'est ces dièdres en mousse qui sont à l'intérieur, qui sont un peu pyramidales, qui permettent d'éviter, c'est des pièges à son. Donc grosso modo, si je parle vers la paroi, le micro lui n'entend pas, ou pratiquement pas, ça atténue et extrêmement bas.
C'est d'ailleurs étonnant de rentrer dans cette pièce que j'ai déjà pu visiter. Et tu rentres dedans, tu fermes la porte, tu parles, c'est bizarre. Il y a une sensation qui est vraiment étrange.
Et les gens qui y rentrent, au départ, se disent « Waouh, c'est zen, il n'y aura pas de bruit ». Non, c'est très perturbant. Et les gens qui souffrent d'acouphènes ou qui ont des problèmes d'oreille interne, c'est juste un enfer là-dedans.
Oui, parce qu'en fait, c'est comme si tu mettais un annuleur de bruit, quoi.
Oui, ou tu te faisais enfermer dans un cercueil. Enfin, c'est un peu glauque, mais c'est vraiment ça.
T'as plus aucun bruit.
Petite notion physique et physiologique, quand on est dans le noir, la pupille de l'œil s'écarte au maximum pour récupérer le moindre photon qui passe. Oui. Le cerveau, il est fait pour ça, il veut capter n'importe quel signal. L'oreille, c'est pareil, il va rehausser son niveau de sensibilité jusqu'à entendre les battements de son cœur et peut-être avoir un effet coquillage. Et les gens qui ont donc des problèmes de tympan liés à la plongée ou trop de concerts, etc., peuvent vraiment avoir un sifflement extrêmement douloureux.
Donc c'est pas la peine de vous installer cette chambre là chez vous, ça servira à rien.
C'est
compliqué et puis c'est coûteux surtout. Donc vous mettez les enceintes là-dedans, vous les testez et ça vous donne quoi en fait comme information?
Alors première chose, on émet quoi comme son? Parce qu'on ne met pas de musique. En fait, ça peut être bête, mais pour une enceinte, on aimerait mettre de la musique, mais non, on met pas de musique. On met ce qu'on appelle un bruit rose. Donc c'est un bruit qui remplit entièrement la bande de fréquence audible par l'oreille humaine, c'est-à-dire de 20 Hz à 20 kHz, et on va analyser en fait est-ce que le niveau est constant quelles que soient les fréquences. Ce son-là, en fait, si jamais on détecte une suraccentuation ou une sous-accentuation selon les fréquences, c'est un problème de performance lié aux enceintes. Et c'est lié à plein de choses. Ça peut être à la membrane, ça peut être les égaliseurs, ça peut être mécanique. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Nous, on mesure les choses pour se dire, OK, si le compositeur a créé un CD avec un certain niveau, est-ce que mon enceinte reproduit exactement ce niveau-là? C'est à ça que sert cet équipement-là. Et une fois qu'on a ce qu'on appelle la réponse en fréquence, c'est-à-dire le niveau dans chacune des fréquences, c'est ça qu'on va pouvoir comparer entre les enceintes. Et c'est là la vraie différence, je complète ce que tu disais, entre les différentes marques, mais même internes aux marques, les différentes gammes, où là, effectivement, là, on voit les beaux jours, on se dit, j'ai envie de me balader avec ma musique, j'ai envie de me déplacer pour avoir des pique-niques ou aller à la plage, etc. Effectivement, je vais avoir une enceinte qui va être peut-être très petite et que je vais pouvoir porter partout, mais au niveau son, ça reste un élément très petit. Et quelque chose de très petit, c'est très difficile de déplacer les graves, par exemple. Et souvent, on va avoir un son un peu métallique, nasillard.
Évidemment.
En fait, c'est de la physique, ça.
En gros, vaut mieux avoir une grande enceinte moyenne qu'une petite excellente, dans tous les cas, pour avoir un son correct.
L'idéal, c'est ça.
Après, on ne va pas se balader avec une grosse enceinte.
C'est ce que j'allais dire.
Et l'idée, c'est de trouver le meilleur rapport qualité du son. Compacité, c'est ça.
Pour ceux qui connaissent, je ne vais pas la citer celle-là parce qu'elle n'est pas dans mon top aujourd'hui, mais Bose avait inventé la Bose SoundLink qui était juste exceptionnelle. C'est-à-dire que c'était un rapport volume-puissance qui était absolument fantastique. Et
qui elle ressemblait à quoi cette enceinte?
Elle était plate comme ça, c'était une nomade. Hein, elle était
ah oui, je m'en souviens, elle était grise.
Exactement.
C'est, ça, ouais, c'est une vieille enceinte en fait, ça fait des années qu'elle existe.
La SoundLink existe encore, mais maintenant ils ont fait évoluer Bose. Hein, cette
je me souviens de cette enceinte mais que j'avais, première. C'était incroyable.
Mais oui, parce qu'en plus, on sent la densité à l'intérieur, il n'y a pas de vide à l'intérieur, c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment du métal, c'est de l'alu, et ça fonctionnait très bien. Et vraiment, arriver à atteindre ça, à l'époque, c'était très compliqué, mais ça le reste aujourd'hui, avec des prix qui sont évidemment accessibles pour tout le monde. Donc là, les produits vers lesquels on veut montrer des petites choses, c'est vraiment les produits qu'on peut quand même déplacer sans avoir peur de la casser. Ça, c'est pour évidemment qu'elle soit autonome et qu'elle soit résistante à plein de choses à l'extérieur.
Alors, avant de découvrir ton palmarès, moi juste un mot. Ce que je regrette sur ces enceintes, c'est qu'elles sont plus stéréo maintenant.
Oui.
Elles sont toutes mono. Et je trouve que c'est vraiment un retour en arrière technologique. Oui. Parce que finalement, tu parlais de la SoundLink qui était stéréo à l'époque. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
Si.
Elle était toute petite, mais il y avait deux haut-parleurs stéréo. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être que tu vas me contredire, mais je crois que la plupart des enceintes que tu nous présentes sont mono.
En fait,
on part du principe que finalement du son ça suffit quoi.
En fait, le souci c'est la taille et le volume de l'enceinte. Si on a
et puis les enceintes sont cylindriques pour la plupart. Comment veux-tu avoir de la stéréo sur un truc cylindrique?
Alors, là, il y a du cubique aussi, il y a du parallépipède, mais en fait, ce qui se passe c'est que si les haut-parleurs sont trop rapprochés, le stéréo va se mélanger en fait.
Donc il y a des algos qui permettent, tu vois,
le Dolby Atmos, ça c'est un truc absolument fantastique. Ouais. Quand on arrive à faire des rebonds. Sauf que là, on parle d'enceinte nomade où, en fait, bon, après, c'est pas moi le fabricant, c'est les ingés et les gens qui font les cahiers des charges pour ces enceintes-là qui se disent, au niveau de l'impact client, utilisateur, est-ce qu'on met deux canaux séparés pour bien avoir ce flux distinct gauche-droite? Si c'est pas forcément nécessaire, alors on va baisser les prix en ayant quelque chose de mono.
Non, mais c'est clair. Mais ça, après, c'est une conviction,
non.
Moi.
Mais oui, perso, mais chez soi, c'est vrai que quand on redécouvre cet effet-là, on se dit. Mais au fait, ça existe ce truc-là.
La musique, elle est dans le meilleur des cas stéréo, quoi.
Oui, au minimum, ça devrait être stéréo à chaque fois, oui, exactement.
Alors, parmi toutes les enceintes que tu as testées, on va commencer par le top rapport puissance-volume.
Ouais, celle-là, c'est...
Celle qui dépote et qui embête les voisins.
Alors, un petit peu quand même. En fait, elle est à 95 décibels, celle-là. Donc, c'est la JBL Charge 6. Alors que les gens ne soient pas étonnés s'ils vont sur le site labofnac.com, ce n'est qu'un produit 3 étoiles. Mais parce qu'on les compare, on compare toutes les enceintes ensemble. Ce qui peut être dommage. Hein. Des gens peuvent se dire, mince, mais comment on peut comparer ça avec une De Vialet, par exemple, ou un truc comme ça? Le souci, c'est que dans nos rayons magasins ou sur le site, souvent, elles sont rangées au même endroit. Donc, on ne peut pas créer une notation particulière pour des segments.
Alors que ça serait quand même assez légitime.
Je crée des sélections spécialement pour ça. D'ailleurs, tu m'invites ici et c'est avec grand plaisir de te proposer une sélection dédiée. Mais c'est vrai qu'au niveau opérationnel, j'ai des freins. Je suis désolé pour
C'est compliqué.
En tout cas, c'est la meilleure.
Mais 3 étoiles dans ce type d'appareil, c'est
très
bon.
Ah oui, très bon.
Par rapport à ce que ça représente.
Surtout à 199€. On est à moins de 200€ là.
C'est gros ça, cette enceinte ?
Elle est à 2 litres 1. En fait, j'ai fait une sélection des produits qui sont quand même portables assez facilement. Donc 2 litres 1, c'est deux bouteilles d'eau qu'on met côte à côte.
Alors, je vois qu'elle est compatible AuraCast.
Oui.
On voit de plus en plus de produits compatibles AuraCast. C'est quoi ça ?
Alors, AuraCast, c'est une nouvelle norme de connexion qui permet de rendre plus compatible et d'avoir une qualité homogène sans latence pour tous les produits qui sont dans ce réseau-là.
D'accord.
En fait, c'est une licence. Hein,
non, mais c'est pas grave.
C'est Qualcomm, je crois, qui a fait la.
Ça améliore la connectivité, c'est ça ?
C'est ça. Ça permet d'éviter les latences, les coupures de latence, et ça permet d'interconnecter des produits qui ne l'étaient pas avant.
Oui, c'est ça. C'est un standard qui permet, par exemple, de connecter plusieurs enceintes de marques différentes à partir du moment où elles sont compatibles AuraCast.
Exactement. Et c'est pas seulement Bluetooth.
Ouais, c'est
Bluetooth,
pas mal.
C'est une norme.
Oui, bien sûr.
Mais l'AuraCast, c'est vraiment d'avoir cet écosystème.
Donc JBL Charge 6 pour le top rapport puissance-volume. Ouais. Après, si on veut de la qualité.
Ouais, j'en mets deux. Alors, bon, des gens vont hurler peut-être parce que c'est pas des produits qu'on amène au bord de la mer normalement. C'est quand même des produits un petit peu plus, premium et précieux. C'est la Marshall Kilburn 3. Donc, celle-là, elle est à 350€. On n'en a pas parlé, mais l'indice de protection est quand même quelque chose d'important si on veut sortir avec son enceinte. La JBL Charge 6, précédemment, elle est IP68. 6-8, ça veut dire qu'elle résiste grosso modo à la poussière et être dans l'eau. Voilà, à un mètre. Hein, j'invite les gens à
donc
regarder.
Donc, elle peut plonger, enfin tomber dans une l'eau. Piscine, il n'y a pas de souci.
Elle sous l'eau, mais elle peut tomber dans l'eau à un mètre, on peut la récupérer, elle est protégée. La Marshall Kilburn 3, elle est IP54. Donc le premier chiffre, c'est lié à la poussière, donc on passe de 6 à 5. Donc déjà, il faut éviter trop, mais elle peut supporter, mais ce n'est pas fait pour, de mettre trop de sable, trop de poussière. Et le 4, donc on passe de 8 à 4, autant dire, s'il pleut, il faut vite la rentrer. Voilà, c'est pas fait pour être trop dehors.
Ok. C'est vrai que la Marshall, elles sont cool, elles sont jolies.
Ouais.
C'est vraiment des super enceintes avec un son plutôt flatteur.
Mais oui, parce qu'en plus, on parlait de la JBL petite avec 95 décibels. Là, on passe à 102 décibels. Mmh. 102 décibels, ça veut dire qu'on. Enfin, faut imaginer, c'est tous les 3 décibels, on double le volume. Donc c'est
énorme. C'est exponentiel, quoi.
C'est exponentiel, exactement. C'est logarithmique. Donc on a. Et avec une autonomie annoncée à 50 heures, nous, on ne la mesure pas comme ça. Donc ils sont un peu flatteurs sur l'autonomie, mais on dépasse largement la journée complète d'utilisation. Yeah.
BO après ?
Ouais, Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, qui est vraiment une marque hyper emblématique, bah, ils ont leur petite Beolight 20 qui est à 650 euros quand même.
Ah ouais, quand même. Voilà, pour une enceinte nomade, t'as pas intérêt à la perdre ou à te la faire piquer, celle-là.
Oui, c'est pour ça que celle-là, je la mets entre nomade et. Bon, elle peut bouger. Elle n'a pas d'IP, elle n'a pas d'indice de protection annoncé, donc c'est pas fait pour être trop dehors.
Mais en termes de qualité de son, j'imagine.
Elle est très bonne, elle est très très bonne et elle monte encore plus, elle est à 104 décibels. Mais tu vois, là, au niveau design, on est très bon, mais en Bluetooth, on passe d'un Bluetooth 5.4 à un Bluetooth 4.2.
Donc, moins de portée.
Moins de portée, moins efficace énergétiquement, okay. Et moins compatible avec d'autres, tous les systèmes.
C'est dommage, parce qu'une enceinte à ce prix-là, on aurait pu imaginer quand même avoir les derniers chipsets et les dernières générations de Bluetooth.
Complètement. Et après, je pense que Bang & Olufsen n'ont pas mis non plus toute leur énergie sur cette gamme-là de produits. Je pense que c'est aussi ça.
C'est peut-être ça. Et après, les petites enceintes, et en plus, qui sont abordables. Ça, c'est cool.
Alors, je ne veux pas vendre du rêve. Ces deux enceintes-là dont je vais vous parler ne sont pas forcément de la haute musique, haute, mais c'est des produits à moins de 50 euros. C'est la JBL Go 4, donc, qui est à une étoile. Une petite étoile, mais à ce prix-là, voilà, je ne veux pas vous inventer quelque chose, mais c'est quand même un très bon rapport qualité-prix.
On est à 49 euros, hein, c'est ça.
On est à 49 euros, moins de 50 euros. Elle est IP67, elle est Bluetooth 5.3, elle est aussi compatible au Racast.
Ouais, cool.
Elle est à moins de 200 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on porte, enfin, bah, on peut le mettre, et c'est pas ridicule en termes de son. Voilà, on est quand même au-dessus du haut-parleur d'un smartphone. Si je veux mettre un niveau, si vous mettez votre haut-parleur avec de la musique, on est largement au-dessus quand même de ça. Mais on n'est pas sur du home cinéma. Et la deuxième, c'est la petite Sony SRS XB100 qui, pareil, est à 49 euros. Elle est à 79 dB. Hein. Vous vous rappelez, on parlait de 102 décibels, 97 décibels. Là, 79 décibels, ça envoie du son, mais c'est pas non plus, ça va pas vous rendre sourd. IP67, Bluetooth 5.3, et elle est dans une autonomie qui se rapproche plus des 12 à 14 heures d'autonomie en usage, avec un niveau entendable, audible. Parce que si vous mettez à fond, évidemment que ça va saturer, ça va être distordu. Donc, ce n'est pas très agréable. Donc, nous, on met toujours le niveau de volume au niveau maximum avec un taux de distorsion donné. Donc, pour ne pas tuer ou donner une valeur saturée qui n'a aucun sens pour l'utilisateur.
Et bien, voilà la petite sélection donc, de Lionel, la JBL Charge 6, Marshall Kilburn 3, la BO Beolith 20, JBL Go. Et puis la Sony, la JBL Go 4 et la Sony SRS XB100. Moi, j'ai un petit faible pour la Sonos Roam.
Ah oui,
tu sais,
ouais.
Une toute petite enceinte qui alors, se connecte soit à ton réseau Sonos en Wi-Fi, soit en Bluetooth. Et je trouve que le son est vraiment pas mal. Et ce qui est cool, c'est que si tu en as deux, là, moi qui suis un psychopathe de la stéréo, bah, tu peux avoir la stéréo et ça marche super bien.
Ouais, et justement avec l'Auracast, maintenant on va pouvoir le faire pour tous les gens qui sont Auracast, c'est ça l'intérêt, et Sonos c'était vraiment leur fer de lance, et là elle n'est pas dans ma sélection, elle est un petit peu en dessous, mais je la mets dans la catégorie de la JBL Charge 6, parce qu'on est quand même dans un truc portable.
Elle n'est pas donnée, hein, je crois qu'elle
est un peu plus chère.
Des 200 euros, ou peut-être un petit peu moins, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça vaut le détour.
Oui.
Merci beaucoup Lionel, voilà la petite sélection des enceintes nomades. Écoutez, c'est le moment ou jamais de vous informer là-dessus. Maintenant, libre à vous de faire le bon choix. Lionel Costa, directeur du Labo Fnac. On se retrouve très vite, Lionel. La prochaine fois, ce sera les télés, parce qu'on se rapproche d'un gros événement.
Oui, avec un ballon rond.
Avec un ballon rond. Et peut-être que vous avez envie de vous offrir une nouvelle télé. Ça tombe bien parce que les prix sont quand même assez tenus. malgré l'augmentation du prix de la mémoire, etc., etc., on arrive à trouver des télés pas trop trop chères. On rentrera dans le détail la prochaine fois avec
ça marche.
Merci beaucoup Lionel. Ce de quoi je mêle est terminé. Vous restez avec nous, le petit module bonus qui arrive dans un instant. Et puis j'aurai le plaisir, pour tous ceux qui ne sont pas avec nous en podcast audio, de nous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas. À très vite et merci de nous suivre.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.